France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Adelino Mello, Ludovic Auger et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission que nous allons consacrer au chef d'orchestre Eugène Ormandy, 120 ans après sa naissance, le 18 novembre 1899 à Budapest. Eugène Ormandy et l'orchestre de Philadelphie, dont il fut le directeur musical pendant 44 ans, de 1936 à 1980. Aujourd'hui, nous évoquerons les années 50 avec des solistes comme les pianistes Rudolf Serkin, Claudio Arrau, Robert Casadesus, avec le violoncelle de Mstislav Rostropovitch, ou avec les violonistes David Oistrakh, Isaac Stern, et pour commencer, Dino Francescatti, que voici dans le final d'une partition dont nous écoutions hier les premières pages par Fritz Kreisler. Il s'agit du premier concerto de Niccolo Paganini.
Thank you.
1950, le violoniste français Zino Francescatti était en compagnie de l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy pour enregistrer le premier concerto opus 6 en ré majeur de Niccolo Paganini dont nous écoutions le rondo final, un rondo bondissant avec ses multiples facéties de l'archet et autres spiccato. Nous sommes là donc au début des années 50 avec un Eugène Ormandy bien installé à la tête de son orchestre dont il est le directeur musical, je vous rappelle, depuis 1936 mais qu'il a dirigé la première fois en 1929-1930 en remplaçant Arturo Toscanini. Et au début des années 70, Maurice Fleuret, qui était un grand défenseur de la musique contemporaine et puis également le co-créateur avec Jack Lang de la fête de la musique, Maurice Fleuret avait partagé quelques minutes avec Eugène Ormandy pour recueillir son témoignage, notamment sur ses responsabilités de chef. Réponse d'Ormandy, les responsabilités, je les ai toutes. Et si quelque chose ne marche pas, c'est toujours de ma faute. Il n'y a pas besoin de discuter le mérite de telle ou telle œuvre ou le talent de tel ou tel instrumentiste, car je ne suis pas seulement responsable de la qualité des exécutions, mais aussi et avant tout du choix de mes musiciens, du nombre de répétitions, du calendrier des concerts, des programmes. Et cette responsabilité, je ne l'ai pas qu'aux yeux du public et de la critique, mais aussi à ceux des organisateurs et des dames du comité dans cette ville très bourgeoise de Philadelphie. Ce sont elles qui recueillent chaque année les dons qui nous font vivre. Nous n'avons pas d'autres revenus, pas d'autres subventions. Fin de citation. Ormandy et l'orchestre de Philadelphie, les voici de nouveau au début des années 50, en 1950, très exactement le 19 novembre. C'était donc un 19 novembre comme aujourd'hui que le pianiste Rudolf Serkin enregistrait L'Empereur, le cinquième concerto de Beethoven, dont voici le rondo final.
Thank you.
C'est le 19 novembre 2019 que nous écoutons cet enregistrement qui date du 19 novembre 1950. L'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy, accompagnait le piano de Rudolf Serkin dans le final du 5e et dernier concerto de Beethoven, l'opus 73 en mi bémol majeur, L'Empereur. Rudolf Serkin qui a enregistré l'intégralité des concertos de Beethoven avec cet orchestre et avec ce chef, tout comme les deux concertos de Brahms, les deux de Mendelssohn, quelques concertos de Mozart, le 4e Prokofiev, Schumann ou encore Burlesque de Richard Strauss, une alliance très forte donc entre cet interprète et cet orchestre qui se fait connaître en Europe à partir de 1949. C'est la première tournée hors des États-Unis de cet orchestre, le Philadelphie, longue tournée en Angleterre suivie en 1954-55 de 10 pays européens et notamment la Finlande, où Eugène Ormandy va et les membres de l'orchestre vont rencontrer Jean Sibelius, qui est alors un vieux monsieur de 89 ans. Une belle photo témoigne justement de cette conversation, de ces discussions entre Eugène Ormandy et Jean Sibelius, compositeur décrié par une partie de la critique, notamment critique française. On parle notamment du plus mauvais compositeur du monde chez certains bien-pensants en France, mais Jean Sibelius est défendu par des interprètes comme Eugène Ormandy, qui reconnaît tout le génie de cet immense créateur, notamment dans la suite Lemminkainen, que Ormandy a enregistré à plusieurs reprises, notamment ici le 31 janvier 1960, toujours à la tête de cet orchestre de Philadelphie et de son merveilleux corps anglais solo dans le Cygne de Tuonela sur France Musique. Le signe de Tuonela de Jean Sibelius, extrait de la suite Lemminkäinen opus 22. C'était l'orchestre de Philadelphie dirigé en 1960 par Eugène Ormandy avec le corps anglais solo de Louis Rosenblatt qui a été à ce poste de 1959 jusqu'en 1995.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici un autre grand pianiste après Rudolf Serkin, c'est Claudio Arrao qui dès 1947 avait enregistré avec cet orchestre de Philadelphie et qui revient en 1952 pour le premier concerto de Franz Liszt dont voici les mesures finales.
Thank you.
7 février 1952, Claudio Arrau enregistrait le premier concerto en mi bémol majeur de Franz Liszt avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. Ormandy qui, dans cet entretien à Maurice Fleuret, dans les années 70, début des années 70, déclarait « Il y a si longtemps que nous vivons ensemble que chacun de nous connaît parfaitement les réflexes de l'autre. » Et cela est bien utile dans ce travail collectif si mouvant et toujours nouveau qu'est l'interprétation d'une œuvre musicale. Un regard suffit pour un départ, pour une nuance. Quand je suis au pupitre, j'ai l'impression de jouer d'un instrument, d'un seul grand instrument qui est là, docile au moindre de mes gestes, à la moindre de mes fantaisies. L'exécution des ouvrages les plus difficiles y gagne en même temps une sécurité et une liberté tout à fait incomparables.
Thank you.
Messieurs, c'était très bien. L'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy le 15 novembre 1953 dans un extrait de la Damnation de Faust, Hector Berlioz, une marche hongroise dignement dirigée par un Hongrois, Eugène Ormandy, né, je vous le rappelle, le 18 novembre 1899 à Budapest. Il connaissait particulièrement bien cette musique, Eugène Ormandy, qui a donc passé 44 ans à la tête de cet orchestre de Philadelphie, l'occasion d'enregistrer de très nombreuses partitions et même d'enregistrer plusieurs fois la même partition. Ainsi, L'Oiseau de feu, dont nous allons écouter un extrait d'Igor Stravinsky, a été enregistré trois fois par cet orchestre sous la direction d'Ormandy en 67, en 73 et tout d'abord le 1er mars 1953. valseuse et finale extraite du L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, l'orchestre de Philadelphie dirigé en 1953 par Eugène Ormandy.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous assurons 4 ou 5 concerts par semaine. Et la réputation du Philadelphie l'oblige à faire de longues tournées chaque année. À New York, jadis, nous ne donnions jamais plus de 10 concerts par saison. Aujourd'hui, nous y jouons au minimum 20 fois chaque hiver. Et puis, nous avons les séances d'enregistrement pour la télévision, la radio, le disque. Un jour de Noël, nous avons passé 14h30 dans un studio pour faire un disque avec Oistrakh et Stern. Fin de citation. David Oistrakh et Isaac Stern, rassemblés côte à côte avec l'orchestre de Philadelphie derrière, dirigé par Eugène Ormandy, eh bien c'était notamment pour ce concerto en la mineur d'Antonio Vivaldi.
Thank you.
de réverbération rajoutée en studio pour la fin de cet extrait du premier mouvement du concerto en la mineur, opus 3, numéro 8 d'Antonio Vivaldi, avec deux violonistes de prestige, Isaac Stern et David Oistrakh. C'était en 1955, la veille de Noël, 24 décembre 1955. L'orchestre de Philadelphie était dirigé par Eugène Ormandy et ces deux artistes allaient se retrouver 4 ans plus tard pour d'autres concertos du Vivaldi, toujours avec Ormandy et Philadelphie. Cette fois-ci, ce sera en stéréo. Et nous allons retrouver Isaac Stern autour d'une fascinante partition de Maurice Ravel, enregistrée le 13 avril 1957. Il s'agit de Tzigan, toujours en compagnie du Philadelphia Orchestra, dirigé par son directeur musical Eugène Ormandy. 37 ans, Isaac Stern, le 13 avril 1957, lorsqu'il enregistrait ce Tzigane de Maurice Ravel avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. Ormandy, qui, je vous rappelle, je le disais hier, a été lui aussi un violoniste virtuose formé par le grand Jenő Hubay à l'Académie royale, l'Académie de musique de Budapest, là où il a appris non seulement le violon, mais également des classes d'écriture, comme en témoignent certains enregistrements où l'on voit arrangements réalisés par Eugène Ormandy. C'est le cas de cet enregistrement de cette même année 1957 de la musique de Johann Christian Bach arrangée par Eugène Ormandy. Celui qu'on appelle en français Jean Chrétien Bach était le tout dernier fils de Jean-Sébastien. On l'a appelé le Bach de Londres, Londres où où il s'était installé pendant les 20 dernières années de sa vie entre 1762 et 82. Et c'est là que ce Jean Chrétien Bach a écrit de nombreuses partitions d'orchestre pour les concerts qu'il avait organisés avec Carl Friedrich Abel. C'était les Bach Abel Concert, qu'on appelait ça, où on pouvait entendre notamment cette Sinfonia Opus 18 numéro 3, mais ici elle est arrangée par Eugène Ormandy. Les musiciens de l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy, qui lui-même a réalisé l'arrangement de cette symphonie en ré majeur, opus 18, numéro 3, de Johann Christian, autrement dit de Jean Chrétien Bach. C'était en mars 1957. L'année suivante, Ormandy va emmener ses troupes de nouveau pour une tournée européenne, et notamment en URSS, ce qui est assez remarquable. Il profite d'un certain dégel politique pour faire entendre ce son de Philadelphie, le Philadelphia Sound, aux auditeurs russe, notamment à Moscou. Et puis cette même année 1958, le 16 novembre, il enregistre avec le pianiste français Robert Casadesus la symphonie Sevenol, symphonie sur un chant montagnard français de Vincent d'Indy.
Thank you.
Le final animé, sic, de cette symphonie sur un chant montagnard français conçu par Vincent Dindy après avoir entendu, je cite, un air de berger ardéchois dans le Vivarais, au loin, sur la crête de Tourtous, entre Saint-Péray et Toulaud, près de Chabray, fin de citation, nous sommes donc là, près de Valence, juste de l'autre côté du Rhône, l'orchestre de Philadelphie dirigé le 16 novembre 1958 par Eugène Ormandy. Et nous allons changer complètement d'atmosphère en avançant dans la discographie d'Eugène Ormandy et de l'orchestre. Le 8 novembre 1959, un grand événement s'était produit avec la venue de Mstislav Rostropovitch et de Dmitri Chostakovitch à Philadelphie pour l'enregistrement du premier concerto pour violoncelle qui avait été créé en Russie, mais dont la création occidentale avait eu lieu quelques jours auparavant à Philadelphie avec l'orchestre, bien sûr. Des photos témoignent de ces rencontres, des photos très touchantes, puisque si on a l'habitude de voir le masque de Chostakovitch toujours très sombre et très sévère, et il y a des photos très souriantes à côté de Ormandy lors de ces séances d'enregistrement qu'on imagine détendues avec bien sûr quelques espions de ci, de là et des micros cachés, mais en tout cas une ambiance de travail assez festive comme en témoignent ces photos et comme en témoigne cet enregistrement. Mstislav Rostropovitch et l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. Thank you. 8 novembre 1959, en présence de Dmitri Chostakovitch, Mstislav Rostropovitch enregistrait le premier concerto pour violoncelle en mi bémol majeur, opus 107, dont nous écoutions le premier mouvement, Allegretto, avec le corps solo de Mason Jones, membre de l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy. Eugène Ormandy, à qui Maurice Fleuret demande « Est-ce que vous quittez vos musiciens ?»« Mais je ne les quitte pas souvent », dit-il au début des années 70. « Mon contrat m'oblige à ne m'absenter que 4 semaines par an et à ne diriger que sur d'autres continents. Ainsi, il m'arrive de diriger l'Orchestre National de l'ORTF, notre actuel Orchestre National de France, de conduire un festival Sibelius à Helsinki, de me trouver au pupitre du Philharmonie de Berlin, de celui de Vienne, de l'Orchestre de Zurich. Mais il y a 1000 choses qui m'attendent au retour. » Et notamment cet enregistrement de Peer Gynt d'Edvard Grieg, dont voici le célébrissime dans le palais du roi de la montagne. Palais du roi de la montagne, extrait de Peer Gynt d'Edvard Grieg, enregistré le 21 décembre 1959 par l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy. Et voici maintenant, non pas M le maudit, mais S l'Esparza, c'est Lionel, bonjour.
Ah, bonjour François-Xavier, dites-moi, on est moderne demain, on passe à la stéréo?
Mais oui, c'est les années 57, 58, 59 qui font la bascule entre mono et stéréo, et puis le Philadelphia Sound, comme on dit, le son de Philadelphie va exploser dans les années 60, ce que nous évoquerons demain.
À demain donc.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.